Microcité.
Une émission de l'école de journalisme de Grenoble.
Sur Campus Grenoble 90.8.
16h30, 17h.
Luc Chemla.
Bonjour à toutes et à tous, il est 16h30, vous êtes sur Radio Campus Grenoble et c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour ce 9e numéro de Microcité. Alors vous commencez à connaître la formule par cœur, 30 minutes d'émission avec des reportages, un débat, le tout sur l'actualité du moment. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est très riche. Alors au sommaire cette semaine, la rédaction de Microcité a décidé de s'interroger sur son futur métier et les critiques qui lui sont adressées. Le mouvement des Gilets jaunes a appuyé la fracture entre une partie de la population française et les journalistes. On peut même parler d'une certaine déviance. Comment en est-on arrivé là et quelles solutions pour changer la situation? C'est le thème de notre dossier. Aurélia Valarier posera ses questions à notre invité. Notre grand format s'intéressera ensuite à une initiative de la mission locale de Grenoble. Avant-hier a eu lieu en plein cœur du quartier Mistral une opération job dating. L'objectif, permettre aux jeunes de passer de rapides entretiens d'embauche et éventuellement de trouver un emploi. Xavier Pourroissier est rendu. Un reportage à retrouver en toute fin d'émission. Merci de nous écouter sur le 90.8 FM ou sur le www.campusgrenoble.org. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur Facebook et Twitter et à réagir avec le hashtag Microcité. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Microcité, c'est parti! Et comme chaque semaine, on commence avec les infos, le journal présenté par Alexandre Lepère.
Et à la une de l'actualité, tension maximale à Paris en région à la veille du 4e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. On fait le point dans le journal sur une situation brûlante. La protestation qui s'est aussi diffusée chez les étudiants et les lycéens. Nous sommes allés à leur rencontre dans un lycée de Grenoble. Le reportage de Julien Pelot dans quelques instants. Et puis on s'intéressera à Chronovélo, l'autoroute cyclable développée par la métropole de Grenoble. Rudy Pupin a suivi la réunion d'avancée du projet.
Microcité.
Et on vient de l'apprendre, Jonathan Daval reconnaît à nouveau le meurtre d'Alexia. Il comparaissait aujourd'hui devant le tribunal de Besançon. Meurtrier présumé de sa femme, l'homme de 34 ans avait initialement accusé sa belle-famille. Plus de précisions en fin d'émission dans notre rappel des titres.
La justice sévit à la veille du 4e samedi de mobilisation des Gilets jaunes.
Le parquet de Paris a ouvert aujourd'hui une enquête sur Éric Drouet, l'un des créateurs du mouvement social débuté il y a 3 semaines. Ce chauffeur routier avait déclaré mercredi sur BFM TV vouloir envahir l'Elysée samedi. Une enquête qui va attiser la colère des Gilets jaunes. Et face au risque majeur de violence promis par les plus virulents d'entre eux, le ministère de l'Intérieur a confirmé le dispositif de sécurité présenté hier par Édouard Philippe aux 20h de TF1. 89 000 policiers seront ainsi postés dans toute la France, dont 8 000 rien qu'à Paris. Christophe Castaner a également confirmé la présence de véhicules blindés de la gendarmerie et du GIGN à Paris et en province. Et du côté du Premier ministre, Édouard Philippe avait pourtant tenté d'apaiser la situation cette semaine. Julien Penaud, plusieurs concessions ont été faites.
Exactement, Alexandre. Face à la colère des Gilets jaunes, Emmanuel Macron ne peut plus garder son cap. Le président est obligé de reculer sur plusieurs dossiers, à commencer par la suppression de la taxe carbone sur le budget 2019. Concrètement, cette taxe prévoyait d'augmenter de 2,9 centimes d'euros le litre de sans-plomb et de 6,5 centimes d'euros le litre de gasoil. Toujours dans les énergies, le gouvernement annonce le gel des augmentations des tarifs du gaz et de l'électricité pour tout l'hiver. Une bonne nouvelle pour les ménages qui auraient dû affronter une hausse estimée entre 8 et 10% sur leurs factures. Également l'augmentation du SMIC de 1,8%. Le salaire minimum de croissance atteindrait donc les 1528 euros bruts mensuels. Autre annonce sortie du chapeau à la dernière minute, une prime de fin d'année exceptionnelle de 1000 euros, annoncée hier par Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et Gérald Darmanin, ministre du budget. Cette prime serait défiscalisée. Mais attention Alexandre, cela se ferait sur la base du volontariat des chefs d'entreprise.
Merci Julien pour ces précisions. Et noter qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, le président Laurent Wauquiez a annoncé une baisse de 20% des taxes de carburant pour le début de l'année 2019.
Avec les Gilets jaunes, les lycéens se sont aussi greffés à la contestation.
Paroxysme de la crise de cette interpellation hier de 148 élèves à Mantes-la-Jolie après une manifestation qui a dégénéré. Une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux montrant une dizaine d'entre eux mis à genoux, les mains croisées derrière la tête contre un mur. Cette polémique alimente un peu plus le feu des contestations. 300 lycées étaient notamment bloqués hier en France. Des manifestations contre Parcoursup et la réforme du bac qui ont également dégénéré à Grenoble. Julien Penaud, vous êtes rendu devant un établissement.
Des barricades sur les rails du tramway, des jets de pierre contre les CRS, le blocus devant le lycée Mounier hier matin a vite dégénéré. Les yeux en pleurs, Chelsea et Dorian, lycéennes en STMG, ont dû quitter les lieux face aux tirs de gaz lacrymogène.
Je comprends que le fait qu'on ait bloqué les trams et tout, ça joue, mais le fait de gazer alors qu'il y a des gens innocents, c'est pas très rigolo, on va dire.
Une mobilisation peu organisée qui s'inspire de la colère des gilets jaunes, selon Héloïse et Léa en première.
C'est un peu un mouvement général, ça touche pas que les lycéens, ce qu'il y a avec les gilets jaunes, etc. C'est un mouvement qui commence à se généraliser. Et...
C'est un ras-le-bol total de tout le monde. C'est pas que les gilets jaunes en fait, c'est toute la jeunesse, tous les Français, tout le monde en fait.
Dans le mouvement, beaucoup étaient présents pour semer la discorde. Abris de tramway et mobilier urbain ont été endommagés par les manifestants. Mais pour Guillaume François, représentant de l'Union nationale des lycéens, la violence est du côté des policiers.
Nous, effectivement, c'est pas forcément ce qu'on défend que de brûler des poubelles et que de bloquer le tram. Maintenant, ça reste que de la violence matérielle. Alors qu'en face, on a déjà une dizaine de blessés sur Grenoble, dont une blessée grave qui va être balafrée à vie à cause d'un tir de flashball.
Peu organisés, les lycéens se sont ensuite dispersés en direction de la Villeneuve, poursuivis par les CRS. D'autres rassemblements ont dégénéré au cours Georges Aurès et sur l'avenue Alsace-Lorraine, ce qui a provoqué l'arrêt complet des transports en commun à 20h.
Julien Ponneau pour Microcité. Et cet après-midi, des incidents ont de nouveau éclaté entre jeunes manifestants et forces de l'ordre. Des poubelles ont été jetées en travers des rails du tramway au carrefour des cours Jean Jaurès et Beria.
À Grenoble, le projet Chronovélo change de braquet et ça ne plaît visiblement pas à tout le monde.
Oui, cette large piste cyclable qui reliera les quatre coins de la métropole d'ici 2022 a fait l'objet d'une réunion publique mardi soir. Ça s'est passé à la Maison du Tourisme de Grenoble. L'occasion, Audi Pupin, pour certains habitants d'exprimer leurs inquiétudes en ce qui concerne la sécurité.
Toutes les secondes sur la chronovélo aux heures de pointe, c'est ce qu'estime le collectif Un Vélo qui Marche. Il s'oppose au tracé actuel de cette autoroute cyclable. Pierre Billieri est l'un de ses membres.
On n'est pas contre le système chronovélo, entre les pôles, etc., mais pas à l'intérieur des villes elles-mêmes. C'est fait pour rouler vite, on ne peut pas avoir à la fois la vitesse et la sécurité.
Certains préféreraient voir ces pistes autour de la ville. Olivier habite le centre de Grenoble et selon lui, il y aura un problème de sécurité autour des lieux les plus fréquentés, comme devant le lycée Champollion.
Devant un lycée où il y a 1900 élèves qui rentrent et qui sortent, c'est absurde, c'est accidentogène. On ne peut pas faire passer une chronovélo et des voitures et des piétons en même temps. Tout ça en même temps, ça n'est pas possible.
Mais pas question pour la métropole en charge du projet de revoir sa copie. Yann Mongaburu, son vice-président, tente de rassurer.
L'enjeu des chronovélos, c'est justement de créer des itinéraires qui sont sécurisés parce qu'ils sont séparés de la chaussée vis-à-vis des automobilistes, parce qu'ils sont séparés du trottoir. C'est de la continuité, de la sécurité, de la lisibilité à l'échelle de l'ensemble des 49 communes de la métropole.
Les travaux, eux, ont déjà débuté. Ils devraient s'achever en 2022.
Le reportage de Rudy Pupin. Nordal Lelandais de nouveau mis en examen. L'ancien militaire a été entendu par les juges d'instruction à Grenoble aujourd'hui, après la découverte d'une vidéo pédopornographique sur son téléphone portable. Les images qui avaient été effacées montrent l'homme de 35 ans en train d'agresser sexuellement sa cousine de 4 ans, qui est aussi sa filleule. L'ancien militaire est déjà poursuivi pour le meurtre de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer. L'Aquarius aura-t-il un successeur après l'annonce de sa mise à quai définitive hier? L'une des ONG responsables du bateau humanitaire espère trouver un nouveau navire pour retourner en mer début 2019. Depuis 2016, l'Aquarius était devenu un symbole de la crise diplomatique autour de l'accueil des migrants. Il a sauvé plus de 30 000 personnes en mer Méditerranée.
Après 18 ans de pouvoir sans partage, Angela Merkel n'est plus la chef de son parti.
En effet, la chancelière lâche la tête de l'Union chrétienne démocrate qu'elle dirigeait depuis 2000. L'élection de son successeur a eu lieu cet après-midi. Angela Merkel, pour sa part, ira jusqu'au bout de son mandat de chancelière, prévu pour 2021. En sport, premier échec pour Martin Fourcade cet après-midi et cette saison. Après sa victoire hier sur l'individuel, le quintuple champion olympique vient de terminer 24e de l'épreuve de sprint à Pojulka en Slovénie pour la manche d'ouverture de la Coupe du Monde. Le vainqueur, son grand rival, le Norvégien Johannes Bø.
Enfin, un seul chiffre à retenir pour ce week-end, Alexandre.
C'est le 36-37, Luc. Jusqu'à demain, il est possible de faire des dons pour financer la recherche sur les maladies génétiques. Une 32e édition influencée par la mobilisation des Gilets jaunes. Initialement prévue place de la Concorde, les 30 heures de direct seront finalement assurées depuis les studios de France Télévisions en région parisienne.
C'était le journal d'Alexandre Lepère. Merci beaucoup. On vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres.
Microcité.
16h39 sur Radio Campus Grenoble. Dans un instant, notre débat consacré, je vous le rappelle, aux relations tendues entre les journalistes et la population française. Mais juste avant cela, un peu de musique, le temps d'installer notre invité dans le studio.
Ah yes! Well, looky here, looky here.
I I love you so. Hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, I never stay. I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Love you so, hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, I never stay. I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say.
Retour dans le passé et en 2010, c'était Bruno Mars avec son titre Runaway Baby. 16h43 sur Radio Campus Grenoble, il est désormais temps de passer au débat de la semaine.
Le dossier.
Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, des journalistes dénoncent l'agressivité de certains manifestants à leur égard. Aurélia Valarié, bonjour.
Bonjour.
Cette défiance envers les médias n'est certes pas nouvelle, mais elle a été mise en lumière par les événements récents.
Alors effectivement, depuis 3 semaines, beaucoup de journalistes se plaignent d'être pris pour cible en marge des manifestations, que ce soit avec les Gilets jaunes ou encore le mouvement des lycéens qui a débuté ce lundi. Alors il y a du matériel cassé, des insultes, des courses-poursuites dans les rues. Et hier encore, des journalistes de la Dépêche du Midi à Toulouse ont été victimes d'agressions devant un lycée. Alors pour parler de ce climat de tension entre les journalistes et les citoyens, nous accueillons en plateau Vincent Abran, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes délégué syndical du SNJ, qui est le syndicat national des journalistes à France 3 Alpes. Donc cette semaine, certains de vos confrères de France 3 Rhône-Alpes ont été victimes d'agressions devant un lycée de la métropole lyonnaise. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui d'aller sur le terrain ?
C'est un bien grand mot, peur. On sait très bien qu'on est confronté à ce style de situation régulièrement et depuis de nombreuses années. C'est pas un phénomène nouveau, je dirais. Depuis 95, depuis, il y a aussi des espaces qui nous sont interdits dans certaines cités. On risque toujours, quand il y a des mouvements sociaux, des insultes, des agressions. C'est vrai qu'en ce moment, c'est particulièrement tendu pour beaucoup de collègues. Et ça a été vrai en Rhône-Alpes, ça a été vrai en Midi-Pyrénées encore hier, je crois. Ou dans le Nord. Le climat est pour la liberté de la presse, c'est un peu compliqué en ce moment.
Alors, pour essayer de comprendre ce manque de confiance envers les médias, nous sommes allés interroger des Gilets jaunes à Grenoble. On écoute.
Dimanche dernier, il y a des heurts à la place de l'Étoile et le journaliste arrive, le pseudo-journaliste, il demande à un Gilet jaune s'il soutient les casseurs. On ne dit pas ce qui est important à dire, on dit ce qui est important pour le pouvoir.
Pour moi, les grands médias, les grands groupes servent à diviser les gens parce qu'ils ne montrent pas la réalité du terrain. Ils montrent que ce qu'ils veulent, que ce qu'ils peuvent servir au pouvoir et à leurs intérêts personnels.
Il y a une mainmise des grands groupes financiers sur les médias nationaux qui fait que les choses sont souvent très orientées. Au début, sur les Gilets jaunes, les médias ont voulu faire passer l'idée que c'était un mouvement facho. La stratégie médiatique n'a pas marché.
Vincent Imbran, vous êtes donc, je le rappelle, reporter et délégué du SNJ à France 3 Alpes. Alors je vous vois sourire, à les entendre, c'est la faute des journalistes si on en arrivait là. Vous comprenez ce sentiment ?
Oui, tout à fait. Je dirais même que ce que ces personnes ont dit est très intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, on doit critiquer les médias. Je pense que c'est sain dans une démocratie. On doit avoir un regard critique sur qui contrôle les médias aussi, y compris les médias privés, leur lien avec le pouvoir. Et je pense que c'est signe d'une bonne démocratie. Je pense que c'est ce que disent ces personnes est vraiment intéressant. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus confondre les journalistes qui sont en reportage sur le terrain, souvent qui sont des salariés, des travailleurs comme les autres, et puis quelques grands éditorialistes ou experts qui interviennent dans les médias nationaux.
Et pour vous, justement, est-ce qu'il y a une différence entre journaliste et journalisme, entre la remise en cause des professionnels et la remise en cause de la profession ?
Je pense qu'on peut, critiquer les médias aujourd'hui. Comme je le dis, c'est sain. Et il faut critiquer les médias. Il faut avoir un regard critique, et notamment lors de ces mouvements sociaux. Entre la critique des médias et l'appel à la chasse aux journalistes et à la haine aux journalistes, il y a quand même une barrière qu'il ne faut pas franchir. D'une part parce que la liberté de la presse, c'est quand même c'est un signe démocratique fort, et toute démocratie a besoin de liberté de la presse. Mais par ailleurs, ce sont des moments, je pense que les mouvements sociaux tels que le mouvement des Gilets jaunes ou le mouvement des lycéens aujourd'hui, c'est un mouvement vraiment de tension et de remise en question du travail des médias. Voilà. Le problème, c'est que ça induit un problème de travail des journalistes sur le terrain qui ont du mal à retranscrire ce que c'est que la réalité aujourd'hui sur les barrages et dans ces manifestations.
Le journalisme a quand même toujours été critiqué, mais là on a l'impression qu'il y a quand même un cap qui a été franchi, il y a quand même beaucoup plus de violence. Pourquoi aujourd'hui il y a cette violence qui s'exprime maintenant ?
Je pense que c'est une accumulation de phénomènes. Depuis 1995, Bourdieu l'avait d'ailleurs théorisé à un moment, l'incapacité des médias à parler, notamment des milieux populaires, à donner la parole aux milieux populaires, ce qui est une réalité. L'extériorité sociale des journalistes à certains milieux, c'est une réalité. Et il faut pas s'en cacher. Je pense que c'est une accumulation. Il y a le problème dans les cités, il y a le problème dans lesquels les journalistes ne vont jamais, parce qu'ils ne peuvent pas y aller tout simplement. Voilà, on pourrait égrener tous les mouvements sociaux depuis plusieurs décennies. Peut-être que c'est plus violent parce que ce que voient les gens, ils ont du mal à accéder à des responsables. Et ceux qui voient, malheureusement, ceux qui voient sur le terrain, qui vont à leur rencontre, qui essayent de retracer ce qu'est leur réalité, eh bien, c'est les équipes de reportage. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Il y a ce phénomène-là. Il y a le phénomène des réseaux sociaux qui amplifient. Et avec toutes les dérives qu'il peut y avoir. Et il y a aussi le phénomène de l'information continue, qui a tendance, parfois, je ne sais pas si c'est à déformer, mais en tout cas à amplifier certains phénomènes.
Parce que justement, vous parlez des équipes de reportage et du fait que les populations parfois se sentent mal entendues par les pouvoirs politiques en place. Mais est-ce que ça ne voudrait pas dire que les équipes de reportage qui sont sur le terrain reportent mal la parole de ces populations qui n'ont donc pas assez accès au pouvoir politique?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que, enfin, moi je parle de mon point de vue de journaliste en région d'une télévision publique. Je ne vais pas parler au nom de tous les journalistes. Quand on va sur le terrain, les journalistes aujourd'hui, et y compris dans le service public audiovisuel, ils subissent aussi l'austérité que subissent ces gens. Ils subissent la compression du personnel. Ils subissent le fait de devoir travailler de plus en plus vite avec moins en moins de moyens. Donc moins en moins de temps pour réfléchir, de temps pour préparer. Voilà. Cette pression, elle existe au quotidien. Il ne faut pas croire que le travail de journaliste, il est si différent. Un journaliste, c'est un salarié et un travailleur comme un autre. Certes, il n'a pas les mains dans le cambouis comme quelqu'un dans un atelier, mais il est confronté aussi aux mêmes problèmes que rencontrent ces gens. Un journaliste en région, c'est quelqu'un qui a des enfants qui va au lycée. Ma fille manifestait aujourd'hui avec les lycéens. C'est quelqu'un qui a des amis qui vont peut-être dans les manifestations de Gilets jaunes. Il ne faut pas qu'ils confondent la personne en tant que journaliste et le citoyen. Et je pense que s'attaquer aux personnes, ça ne résoudra pas le problème en tout cas.
Mais justement, est-ce que cette défiance n'est pas causée aussi du fait que les populations connaissent mal le métier de journaliste ?
Peut-être. Je ne sais pas. Je pense que c'est vrai que dès qu'on arrive à dialoguer, dès qu'on arrive à rentrer dans un rapport de confiance, les choses vont mieux. Mais à chaque fois, je vais citer un exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un envoyé spécial qui avait eu lieu à la Villeneuve. Quelqu'un qui avait été emmené à la Villeneuve et qui avait, nous on appelle ça en région, la politique de la terre brûlée. c'est-à-dire qui explique aux gens qu'il va faire un reportage sur la Villeneuve, sur tout ce qu'il y a de bien à la Villeneuve, et qui, au bout du compte, ne parle que de la violence et que des excès de ces quartiers qui existent aussi, il faut le dire. Voilà. Et les gens, ce qu'ils ont en face d'eux, c'est nous qui retournons dans les quartiers pour faire des reportages. Et nous, on ne peut pas pratiquer cette politique de la terre brûlée. Parce qu'on vit au quotidien, on vit avec ces gens, on va dans ces quartiers, on va dans ces manifestations, on va au rond-point, on croise ces gens dans les supermarchés aussi. Et du coup, on vit à l'endroit où ils vivent aussi. On fait partie de leur vie. On est dans cette vie-là. Je pense qu'il y a une méconnaissance, mais en même temps, je pense que les propos des gens tout à l'heure étaient tout à fait sensés.
16h50, donc c'est le débat de Microcité sur la défiance envers les journalistes. Nous sommes avec Vincent Imbrand, reporter à France 3 et représentant du Syndicat national des journalistes. Alors on va écouter Frédéric Ailly, rédacteur en chef adjoint au Dauphiné Libéré.
Que je reproche aux médias, c'est que parfois on va prendre une vidéo, on va la sortir de son contexte, on va la balancer sur un site internet et pour dire voilà, regardez, elle va faire du buzz, elle va marcher. Mais si à côté on n'a pas le mode d'emploi de cette vidéo, ça sert à rien. Je veux dire, notre rôle, nous, c'est de publier des choses et de les expliquer. C'est pas parce qu'une vidéo est spectaculaire qu'il faut la mettre en tête de notre site si on n'a pas l'explication à côté. Et au final, ça va nous discréditer, nous.
Alors justement, cette course au buzz dont vous parliez tout à l'heure, donc notamment par les chaînes d'information en continu, où il faut être à tout prix le premier sur l'événement, quitte à diffuser des vidéos choquantes sorties de leur contexte, est-ce que ça ne décrédibilise pas la profession ?
Oui, c'est certain. Ça décrédibilise. Nous, notre rôle, c'est de mettre en perspective, de rappeler dans quel contexte on l'a fait et aussi dans quelles conditions on l'a fait, avec toutes les limites que ça a. Voilà. Alors, moi, je travaille pas sur Internet, voilà. Et en expliquant les règles, effectivement, les règles, c'est la règle, c'est souvent, on parle matin et le soir, il faut, en ce qui concerne la télévision régionale, il faut qu'il y ait un reportage. Voilà.
Même en direct, avec Twitter, Facebook, c'est même plus le soir même, c'est à l'instant T.
Alors ça, c'est l'instantanéité, c'est la recherche de l'instantanéité, de l'émotion à tout prix, qui va parfois à l'encontre de la réflexion et de la prise de distance, effectivement. À mon âge, je dirais que moi, je ne suis pas confronté à ça. Je suis confronté dans le cadre parce qu'on me demande toujours d'aller plus vite. Mais c'est vrai que c'est vraiment une réflexion qu'il faut qu'on ait. Et je pense que surtout les médias, ils ne doivent pas être à la traîne des réseaux sociaux et essayer de faire cette course de vitesse qui, à mon avis, va les décrédibiliser.
Est-ce que ce n'est pas déjà le cas ?
C'est déjà le cas, oui, certainement. Certainement. Après, je pense qu'au quotidien, malheureusement, on est critiqué aussi par des gens qui ne nous regardent pas forcément. Parfois, quand on allait dans certaines cités, on nous disait vous ne venez que quand il y a des problèmes, que quand il y a des émeutes. Mais c'est faux. Là, c'est complètement faux. On suit toute l'année, on fait des reportages toute l'année dans ces cités.
Vous parlez beaucoup des cités. Les critiques viennent aussi des gens qui ne sont pas du tout de ces cités-là.
Je pense que le problème, c'est un problème social. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui sur les barrages des Gilets jaunes, dans les mouvements sociaux, c'est exactement le même problème que dans les cités. Ce sont des gens qui n'ont pas les codes, qui ne regardent plus les médias, qui regardent les médias comme les complices du pouvoir ou les complices d'un gouvernement et qui pensent que les médias sont à la solde de ce gouvernement. Et ça, je parle des cités parce que c'est là où la violence est encore plus intense pour les journalistes, où c'est même impossible aujourd'hui d'aller. Mais dans certaines manifestations, c'est même le cas, et sur peut-être certains barrages. Mais il ne faut pas généraliser non plus, parce qu'il y a aussi beaucoup de barrages où l'accueil est tout à fait cordial. Il y a quelques cas qui sont certes quotidiens d'agression, mais on pourrait citer des dizaines et des dizaines d'exemples où les gilets jaunes ou les lycéens ou des étudiants parfois accueillent de façon cordiale et comprennent le travail des journalistes. Il ne faut surtout pas généraliser.
Et vous me disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas confondre éditorialiste et journaliste. Pour vous, vous la faites où la différence entre... Parce que c'est une différence du coup qui est un peu...
Moi, mon rôle, c'est de retranscrire la réalité. Ce n'est pas de dire ce que je pense.
Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas rentré dans un journalisme de commentaires qui s'est généralisé, justement ?
Moi, c'est pas ce que j'essaye de faire. Mais je pense qu'il y a un certain nombre d'éditorialistes, notamment d'éditorialistes qu'on voit partout. Malheureusement, c'est toujours les mêmes sur différents médias, que ce soit à la télé, à la radio ou dans la presse écrite, qui interviennent et qui mettent de l'huile sur le feu. J'ai quelques citations. Jean-Michel Apathy, que tout le monde connaît. Je le cite. « Nous n'avons aucun interlocuteur crédible pour représenter le mouvement, un mouvement qui dégénère une violence, qui génère une violence immense et qui menace la nation. C'est une forme d'irresponsabilité politique que nous n'avons jamais connue. » C'est qui le « nous » Il parle de qui quand il dit « nous » Des journalistes? Des politiques? Ou des journalistes et des politiques? D'abord. Et cette violence dont il parle, elle vient d'où cette violence? Est-ce que ce n'est pas une violence qui répond à une autre forme de violence?
Alors, on a bien compris. Alors, malheureusement, il faut qu'on enchaîne. On va bientôt devoir rendre l'antenne. Un mot quand même sur les solutions. Alors, on est conscient, vous aussi. On a vu la rédactrice en chef de France 24 qui a proposé sur les réseaux sociaux de débattre et de présenter son métier. Est-ce que c'est ça la solution? Créer du débat, présenter vraiment le métier aux gens? Comment on peut faire maintenant?
Ah là, vous me posez une colle. Moi, j'ai pas de solution, franchement.
Est-ce qu'il faut être plus pédagogue avec la population?
Non. C'est pas une question de pédagogie, ça c'est pas une question de pédagogie. Je pense que les gens sont pas idiots, les gens comprennent très bien quel est le rôle des médias aujourd'hui. Ils le disent, c'était assez représentatif ce que vous disiez. Moi je les appelle juste à faire la différence entre la critique des médias et la chasse aux journalistes. Ça c'est important. Par contre, en termes de solutions, moi franchement j'en ai pas. Après c'est d'aller discuter, c'est de continuer à faire notre métier le plus honnêtement possible et de pas déformer ce que disent les gens et de qu'on ait un contrat de confiance avec eux.
D'accord, bah, en tout cas merci d'avoir répondu à nos questions. Il est temps de passer au long format. Donc vous étiez Vincent Abran, donc je rappelle que vous étiez représentant syndicat national des journalistes du SNJ à France 3 Alpes. Donc pour finir, juste quelques chiffres du baromètre du journal La Croix qui date de janvier 2018 concernant la confiance des Français envers les médias. Donc 56% d'entre eux ont confiance dans la radio, 52% dans la presse écrite, 48% dans la télévision et seulement un Français sur quatre fait confiance aux informations qu'il trouve sur Internet. Le chemin est donc encore long.
Merci Aurélia, c'était le dossier préparé également par Léo Corcos. Il est 16h57 sur Radio Campus Grenoble et maintenant place à notre reportage long format sur un tout autre sujet. Avant-hier, la mission locale de Grenoble organisait un job dating au plateau situé dans le quartier Mistral au Clair. Le but de ces entretiens express était de permettre aux jeunes de 18 à 25 ans de rencontrer de potentiels futurs employeurs, une manière de rapprocher les jeunes demandeurs d'emploi et les entreprises. Xavier Pourroy.
Ils sont 73 jeunes de 18 à 25 ans à avoir fait le déplacement pour ce job dating. La mission locale de Grenoble a déjà organisé une dizaine d'événements similaires cette année. Le but est bien sûr de faciliter les rencontres, mais pour Corentin Ami, vice-président de cette association, cela permet aussi de donner confiance à certains.
Ce qui est important lors de ces job dating, c'est aussi de démystifier un petit peu l'image que les jeunes ont des entreprises. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent promouvoir leurs expériences, leurs compétences, et se rendre compte qu'ils ont aussi des choses à faire valoir sur le marché du travail.
Chaque entretien dure environ 5 à 10 minutes, pas forcément de promesses d'embauche derrière, mais un contact avec de potentiels employeurs, de quoi s'habituer à de futurs vrais entretiens qui font parfois angoisser certains, comme l'explique Clément Métro, conseiller emploi à la mission locale.
Il y a une peur, il y a une timidité, mais il y a aussi un manque de savoir-faire sur toutes ces choses un petit peu codées, codifiées, qu'ils ne maîtrisent pas. Et une fois que c'est fait, par contre, très souvent, on a d'excellents retours de la part des employeurs qui disent « Ah bah c'est super, ils ont su présenter leur projet, ils ont su défendre leur candidature. »
Elisa Nibio a 20 ans, elle souhaite travailler dans un secteur en particulier où elle ne trouve pour le moment pas de débouchés.
Je recherche dans l'enfance, mais c'est plus compliqué. Ce qu'il y a le plus, c'est du babysitting. Le babysitting, ça paye rien, quoi. Donc bon, il n'y a pas assez d'heures, pas assez de travail. Et du coup, comme j'ai pas de compétences dans d'autres domaines à part ça, je recherche un peu dans tout.
Et en effet, lors des entretiens, Elisa répond oui à tout type de proposition. À la sortie du premier entretien, chacune des parties est plutôt satisfaite. Le représentant de l'entreprise d'intérim Aquila, avec qui elle a échangé, a peut-être même une piste qui pourrait plaire à la jeune fille.
Oui, on a une cliente qui bosse en petite enfance, qui ouvre des crèches. Elle est plutôt dans ce domaine-là, donc ça peut être intéressant pour elle.
Pendant les 2 heures de cet après-midi, les jeunes font donc la queue pour rencontrer des professionnels. Sébastien Millier représente la société Somitra Intérim, qui travaille essentiellement dans le BTP, la logistique ou les transports. Il explique pourquoi il est intéressant pour ce type d'entreprise d'être présent sur ces job dating.
Ce type d'événement, qui est très enrichissant et intéressant, permet de faire connaître notre agence et notre société, et deux, nous permet de détecter les nouveaux talents, de nouveaux profils pour nos clients.
5 personnes seront recontactées par Somitra Intérim après ces entretiens. Et pour Elisa, l'après-midi se termine aussi plutôt bien.
Du coup, le dernier entretien s'est plutôt bien passé?
Oui, super, c'était avec la mairie de Grenoble et j'ai un entretien pour mardi.
Donc l'après-midi, les 2 heures de job dating, au final, le rendu il est plutôt pas mal.
C'est ça, ça a beau être long, finalement c'est plutôt positif et honnêtement je recommande à plein de jeunes. juste de faire quand même un effort, venir quand même bien m'habiller, d'essayer de tout donner. Mais vraiment plein de jeunes et il y a beaucoup de possibilités sur les offres d'emploi.
En 2019, la mission locale de Grenoble organisera d'autres job dating, toujours pour essayer de rapprocher au mieux les jeunes demandeurs d'emploi et les employeurs.
C'était le reportage long format de Xavier Ponroy à Grenoble.
Microcité jusqu'à 17h.
16h59 sur Radio Campus Grenoble, il est bientôt l'heure de se quitter, mais juste avant, le rappel des titres avec Alexandre Lepère.
Jonathan Daval a avoué avoir tué seul son épouse Alexia. Il était confronté aujourd'hui aux membres de sa belle famille devant le juge d'instruction de Besançon. Jonathan Daval a étranglé sa femme avant de transporter son corps en dehors de leur domicile. Le parquet de Paris a ouvert cet après-midi une enquête sur Éric Drouet, l'une des figures des Gilets jaunes. Il avait appelé mercredi envers l'Élysée dans une émission télé. La tension entre les Gilets jaunes et le gouvernement continuera demain avec une nouvelle journée de mobilisation à haut risque. 400 lycées perturbés en France aujourd'hui, dont 84 bloqués, des chiffres annoncés cet après-midi par le ministère de l'Éducation. À Grenoble, suite à la protestation, des affrontements avec des forces de l'ordre sont encore en cours entre le carrefour de l'avenue Alsace-Lorraine et celui du cours Beria.
Microcité.
Microcité, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès vendredi prochain à 16h30 pour une nouvelle émission. Soyez au rendez-vous, ça sera la dernière avant la pause de Noël. D'ici là, vous pouvez nous réécouter en podcast sur le site campusgrenoble.org et pour suivre notre actualité, rendez-vous sur Facebook et Twitter @microcité. Merci à tous de nous avoir suivis, passez un bon week-end à l'écoute de Radio Campus Grenoble 90.8 et à la semaine prochaine.